As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
You see this? A family watching baseball on DirecTV with no satellite dish in sight.
Let's heckle them.
You call that changing the channel?
Choke up on the remote, buddy!
I hope getting all these games on DirecTV makes up for your mother not pre-chewing your sunflower seeds!
DirecTV has the most MLB games. Call 1-800-DIRECTV. Claim based on total games carried on sports networks. Sports availability varies by zip code and requires choice package. Terms and restrictions apply.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en ce vendredi 27 janvier. Je suis un petit peu sur la liste des blessés, mais c'est correct parce que mon collaborateur, mon fidèle complice Arpin Basso, lui est en pleine santé. Salut Arpin.
Salut, ça va bien. Oui, effectivement, moi j'étais un peu sous la météo, comme on dit en France, en bon français, toute cette semaine, mais là c'est toi. Puis effectivement, si toi t'es sur la liste de blessés, t'es peut-être pas le gars qui inquiète le plus nos auditeurs. C'est surtout Cole Caulfield qui nous a parlé ce matin au Centre Bell concernant sa blessure à l'épaule.
J'ai trouvé ça intéressant de l'entendre dire que si on était en séries éliminatoires, il continuerait de jouer. Parce que la compréhension que j'avais eue au départ, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe la circonstance, il fallait qu'il arrête de jouer.
Oui, bien effectivement, je pense que ça démontre à quel point... tu sais, quand Kent Hughes a dit pendant son point de presse la semaine passée que, tu sais, on doit... Pour certains joueurs, il faut qu'on fasse un meilleur job de les protéger d'eux-mêmes. C'est exactement de ça qu'il parlait. Parce que ma compréhension aussi, c'est que peu importe si les Canadiens étaient en liste pour une place en séries éliminatoires, ça arriverait. Tu sais, la seule façon qu'ils prendraient la chance de ne pas opérer tout de suite, c'était si le Canadien était un vrai prétendant pour la Coupe Stanley. Tu sais, c'est honnêtement, c'est... mais s'il était en liste pour une place en série, un peu inattendu, mais il garderait le grand plan, et je pense que Cole aurait été obligé d'avoir la chirurgie anyway, parce que non seulement l'équipe l'aurait dit, son agent aurait dit la même chose, tu sais, c'est comme... Parce qu'honnêtement, il peut vraiment aggraver la blessure, ce qu'il a, il a déjà l'air d'avoir fait. Tu sais, il nous a révélé qu'il est tombé à Dallas le 23 décembre. Son épaule a débloqué un peu, a popé un peu, puis il l'a remis en place. Ça a l'air d'avoir arrivé encore à Nashville, peut-être un peu moins de deux semaines plus tard. Alors, ça, à chaque fois que ça arrive sans avoir une chirurgie, ça risque d'empirer la chose. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais ça pourrait devenir plus grave. Ça pourrait compliquer la chirurgie éventuelle, ou ça pourrait même avoir, dans le pire des cas, ou dans un cas extrême, ça pourrait vraiment causer des dommages permanents. Alors, c'est comme prendre ces risques-là, même si le Canadien était dans les séries en ce moment. Je pense que Cole peut dire ce qu'il veut, là, mais je suis convaincu que les personnes autour de lui l'auraient convaincu que non, t'es trop jeune, t'es trop important pour l'organisation dans l'avenir. On va faire ça, on termine la saison, that's it, puis on revient l'année prochaine. Alors, ça c'est vraiment un cas de protéger un joueur de lui-même, parce que honnêtement, même là, c'est difficile de ne pas avoir l'impression que Cole Caulfield aurait continué à jouer, prendre le risque, si c'était sa décision à lui. Puis il a même dit que la décision d'arrêter de jouer, ce n'était pas la mienne.
Non, c'est ça. Ben là, écoute, il nous a indiqué qu'il allait se faire opérer prochainement. En fait, plus précisément, ça va être mercredi prochain, par le même médecin qui a opéré Josh Anderson. Josh Anderson qui avait été opéré sur ses derniers milles avec les Blue Jackets de Columbus. Quand il s'était fait opérer à l'épaule gauche, lui, il y avait un labrum déchiré à l'époque. Et puis, Cole Caulfield n'a pas voulu indiquer exactement la nature précise de sa blessure à l'épaule, mais il dit que le type d'intervention chirurgicale qu'il va recevoir est semblable à ce que Josh Anderson a eu, à ce que Zach Werenski des Blue Jackets de Columbus a eu également en début de saison. Et il faut rappeler que Josh Anderson avait indiqué à Cole Caulfield le matin où il a appris que son dynamique coéquipier mettait fin à sa saison, qu'il lui a dit, écoute, il dit, le beau côté de la chose, c'est que moi, quand je me suis fait opérer, je suis revenu, puis mon épaule gauche est plus forte. Non seulement elle est plus forte qu'elle était autrefois, mais j'ai l'impression qu'elle est plus forte que mon épaule droite. Alors, Anderson nous avait dit, je pense que ce petit bout-là, ça l'a réconforté, parce qu'effectivement, s'il peut revenir, puis que ce soit... Ça aide Caulfield à gagner de la force au niveau de son épaule, puis justement qu'il ne s'expose plus à des situations où il pourrait se reblesser deux fois en trois semaines, comme ça a été le cas, puis que ce soit une zone qui soit fragilisée chez lui, une zone qui est tellement importante pour n'importe quel joueur de hockey, mais à plus forte raison pour un joueur qui se fie tellement sur son lancer. Au moins, ça va pouvoir peut-être sécuriser Caulfield et puis faire en sorte qu'au début de la saison prochaine, parce que là, c'est clair que avec l'échéancier qui a été établi, il devrait être à 100% pour rendu au début de la saison prochaine. Ben là, il aura repris toute sa force dans l'épaule droite et puis il va être en mesure là, de pouvoir aller de l'avant avec ça. Donc, c'est la grâce qu'on lui souhaite.
Ouais, et puis effectivement, c'est ce procédure-là. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir. J'écris là-dessus en ce moment, ça se peut que ça soit sorti quand nos auditeurs écoutent ça, mais j'ai parlé à un chirurgien orthopédique basé à Maryland aux États-Unis, mais qui a travaillé antérieurement avec les Panthers de la Floride, puis selon lui, avec les méthodes modernes et tout ça, c'est devenu quelque chose de très, 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 très efficace. Il y a comme quelque chose comme 90 à 95% des chances que Cole Caulfield revient à 100%. Complètement remis. Le médecin qui a fait la chirurgie sur Josh Anderson, son nom c'est Peter Millett, il est basé au Colorado, va aussi faire la chirurgie sur Cole Caulfield. Puis effectivement, si tu fais un peu de recherche, c'est un médecin très réputé, un chirurgien très réputé. Alors, c'est honnêtement un bon exemple de ce que Kent Hughes disait. Tu sais, c'est vraiment... Le Canadien et Cole Caulfield et son agent Pat Brisson, mais toutes les chances du bord de ce gars-là, juste laisser ça derrière lui. Tu sais, Josh Anderson, il n'a pas eu de re-blessure depuis. Il y a des auditeurs qui peuvent penser que Zach Werenski a re-blessé une épaule parce qu'effectivement, il y a eu une chirurgie à l'épaule en 2018. Mais ça, c'était l'autre épaule. Il est juste vraiment malchanceux. Mais là, ça fait les deux épaules qui se fait opérer pour lui. Alors, ce qui veut dire que celui de 2018, il n'y a pas eu une récurrence d'une blessure. Alors, c'est vraiment... ça reflète bien la réalité du Canadien. T'sais, c'est comme honnêtement, ça serait un non-sens complet de ne pas faire cette opération-là, peu importe où le Canadien se trouve dans le classement en ce moment, parce que le Canadien, et puis Ken Hughes le répète à chaque fois qu'il nous parle, sont en train d'essayer de bâtir de quelque chose ben, sustainable, on dit comment ça?
Durable.
Une qualité durable qui pourrait être un prétendant pour la Coupe Stanley, pas juste pour jouer en série. Et alors, ça va pas arriver cette année. Peu importe où le Canadien aurait pu se placer. Honnêtement, il pourrait être troisième de la division, mais je pense qu'il aurait pris la même décision. Là. Honnêtement, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont pas proches de leur but. Alors, tant mieux. Parce que c'est un peu... Tu sais, Cole Caulfield parlait du fait qu'il y avait quelque chose qui est arrivé le 23 décembre, sauf que, tu sais, son agent Pat Brisson avait mentionné à une couple de reprises que ça traîne depuis 6 mois, 3 mois. Il y a comme... C'est un peu flou de quand ça a commencé, mais ça a l'air qu'il y a eu un peu de misère avec cette épaule-là depuis plus long que ça. Alors, dans le fond, le 23 décembre, c'était s'il y avait un événement qui l'a empiré. Il y avait un autre, le 3 janvier à Nashville, qui l'a empiré encore. Alors c'est ça. Pourquoi prendre le risque avec un joueur qui est tellement important pour l'avenir du Canadien? Alors, tout le monde a eu le gros bon sens. Tout le monde, sauf Cole Caulfield, ça a l'air. Mais une chance qu'il y ait du monde autour de lui qui sont capables de voir un peu plus le big picture que le joueur lui-même.
Là, écoute, il y a quelqu'un qui lui a posé la question à savoir si cette intervention chirurgicale-là, à son sens, allait être un facteur d'une manière ou d'une autre dans les négociations de son prochain contrat. Puis Caulfield a dit non. Indépendamment de ce qu'il en pense, toi, Arpin, est-ce que tu crois que ça peut être ça peut changer la donne, soit sur la durée du contrat ou soit sur le fait que, étant donné qu'il est blessé, il y a une dose d'incertitude qui va se mettre à planer sur lui, puis peut-être conduire certaines personnes à dire, ben, étant donné qu'il est à peine 5 pieds 7, ça démontre le fait que il y a peut-être un risque au niveau de la durabilité, etc. Est-ce que tu penses que ça va changer quoi que ce soit?
En fait, je pense que j'ai mentionné à notre dernier épisode qui était en anglais, que peut-être ça pourrait changer l'idée du terme du contrat parce que j'avais lu une étude qui disait que les joueurs de hockey qui souffraient d'une déchirure à l'épaule, dans le fond. Labrum, comment on dit ça en français, sais-tu?
Le labrum. C'est l'être, là, mais labrum. On dirait bien que c'est ça.
OK, ouais, c'est ça. Okay. Alors, ouais, c'est l'être, mais déchirure au labrum que ça prenait beaucoup de temps à se réunir. T'sais, ça prenait pas nécessairement beaucoup de temps à revenir au jeu, mais ça prenait beaucoup de temps de revenir à un niveau de performance équivalent de ce qu'il y avait avant la procédure. Et que ça a eu une incidence sur la longévité de la carrière. Mais après avoir parlé à ce médecin-là, que j'ai mentionné tantôt, en fait, son nom, c'est Robert Volk, lui n'était pas nécessairement d'accord avec l'étude que j'ai lue. En fait, t'sais, l'étude a été faite, c'est une vraie étude, puis ça a été fait avec des joueurs de la Ligue nationale, mais selon lui, ça ne devrait pas prendre 3 ans pour que Cole Caulfield redevienne ce qu'il était avant. Et en termes de... Tu sais, si sa carrière devient plus courte, je ne pense pas que ça va devenir tellement plus court que ça serait affecté pendant ce contrat-là. Tu sais, probablement, peut-être, sa prochaine contrat, que ça va devenir un problème si jamais il y a une autre blessure à l'épaule ou whatever, mais en ce moment, alors, après avoir fait un peu plus de recherche, non, je pense pas vraiment, là. Honnêtement, je pense que les Canadiens, la raison pour laquelle il fait l'opération, c'est parce que le Canadien veut Cole Caulfield à long terme, puis il veut qu'il soit en santé aussi vite que possible, alors, je pense pas que le terme du contrat va devenir un problème à cause de ça. Ça se peut que le terme du contrat, indépendamment de ça, soit plus court que 7 ou 8 ans pour des autres facteurs, mais je suis pas certain que ça serait à cause de ça.
Bon, écoute, nonobstant Caulfield, à l'entraînement du Canadien vendredi, il manquait beaucoup de joueurs, et pas les moindres, là. Joel Edmundson qui a quitté en première période tôt dans le match jeudi soir, évidemment n'était pas là, donc selon toute vraisemblance, il va rater le match de samedi contre les Sénateurs d'Ottawa. Christian Dvorak Il a réussi à finir le match, mais c'était pas mal sur un pied. A subi des traitements, donc il n'était pas à l'entraînement non plus, mais on nous dit que lui, il va accompagner l'équipe à Ottawa. Nick Suzuki, traitement également. Et Kirby Dach, traitement lui aussi. Kirby Dach, ça fait plusieurs jours qu'il est qui saute des entraînements, qui saute des entraînements matinaux, etc. Faut pas oublier que c'est le 19 janvier contre les Panthers de la Floride, il a été atteint d'un tir de Radko Gudas en troisième période, atteint au pied, et ça lui a fait très mal. Puis depuis ce temps-là, donc il a fréquemment sauté son tour quand le Canadien s'entraînait. Donc on peut croire que Doc, même s'il joue son meilleur hockey de la saison, peut-être même de sa carrière jusqu'à maintenant, de sa jeune carrière, ben il le fait sans être à 100%. Là, et ça, c'est sans compter Sean Monahan, qui était de retour dans l'entourage de l'équipe, qui avait recommencé à patiner, qui patinait avec un chandail de non-contact. Mais là, ça fait deux jours de suite, il n'est pas sur la patinoire non plus. Alors, ce qui laisse suggérer qu'il pourrait avoir subi un recul dans sa rééducation. Mm-hmm. Là, on est à moins de 6 semaines de la date limite des transactions. Monahan n'est pas sur la glace. Puis Edmundson, je pense qu'on peut soupçonner qu'il s'est blessé au dos de nouveau. Mais bref, il n'est pas sur la glace non plus. Qu'est-ce que ça change pour la date limite des transactions si tes deux principaux appâts sont pas en mesure de jouer? Parce que là, on s'imaginait tous que le Canadien allait être actif, ils allaient être agressifs dans la façon dont ils essaieraient de vendre des atouts à la date limite des transactions. Mais Monahan et Edmundson sont mal en point. Il semble que ça change la donne un peu, là.
Ah oui, ça change la donne, pas juste un peu, ça change la donne beaucoup. Écoute, une chose est certaine, c'est que l'état de santé de Joel Edmundson, il y a beaucoup de soucis à cet endroit-là. Tu sais, on a parlé à un couple de dépisteurs qui viennent régulièrement au Centre Bell, puis en fait, tout le monde à qui on a parlé a mentionné que oui, tu sais, ça serait un bon ajout avant les séries, ce type de défenseur que n'importe quelle équipe aimerait avoir. Sauf que l'état de son dos, c'est inquiétant. Tu sais, il aurait besoin d'avoir un peu d'informations là-dessus pour effectivement réussir à conclure une transaction, surtout à cause du fait qu'Edmundson, c'est pas juste un joueur de location, ça serait pour la saison prochaine aussi. Alors, si c'est bel et bien son dos, puis effectivement, quand tu te rappelles, au début de la saison, il avait dit c'était lower body, c'était bas du corps.
Ouais.
Finalement, c'était son dos. Et là, alors, pendant le match de jeudi, le Canadien a annoncé effectivement que Joel Edmundson ne retournerait pas avec une blessure au bas du corps. Puis aujourd'hui, ça a changé à haut du corps. Alors, je ne sais pas.
C'est comme un alien qui se promène dans le corps de Joel Edmundson.
Ben écoute, il n'y a pas beaucoup de parties du corps que tu peux avoir de la confusion si c'est bas du corps ou haut du corps. Il y en a, en fait, ça a l'air chez le Canadien. Il y en a une, c'est le dos. Ouais. Alors, c'est ça, mais tu sais, on va pas trop spéculer là-dessus, mais si c'est le dos encore, je pense que ça va vraiment influencer sa valeur sur le marché des transactions. Et je suis convaincu que Ken Hughes, s'il obtient pas le prix qu'il veut pour Joel Edmundson, il va juste le garder. Tu sais, c'est vraiment, il est pas dans l'obligation de l'échanger. C'est vraiment une situation très similaire à Arturi Lehkonen l'année passée. Alors, mais tu sais, il va falloir que Edmundson revienne bientôt. Puis Canadien a dit évaluation quotidienne là, mais en tout cas, rendu là, évaluation quotidienne veut rien dire quand ça vient aux blessures du Canadien, parce qu'on a effectivement Joel Edmundson avait une évaluation quotidienne au début de la saison, puis il a manqué un mois. Alors, c'est ça. Puis, en termes de Sean Monahan, c'est clair qu'il non seulement qu'il doit revenir, mais il va falloir qu'il joue à un niveau qui est au moins comparable à ce qu'il faisait avant sa blessure. Et, tu sais, quand tu parlais de Kirby Dach tantôt, et tu parlais du fait qu'il a pris ce tir-là de Radko Gudas, écoute, on ne sait pas exactement c'est quoi le problème avec Kirby Dach, mais c'est vrai qu'il joue vraiment son meilleur hockey en ce moment. Puis, juste en passant, c'était très cool après le match. Quand j'ai demandé, tu sais, Kirby Doc avait dit que la raison qu'il s'est battu en commençant la deuxième période, c'est qu'il n'aimait pas certains jeux qui a eu lieu à son endroit des Red Wings. Je pense peut-être de Kopp, Andrew Kopp en particulier. Alors, dès la mise en jeu initiale de la deuxième période, il a jeté les gants. Kopp a tombé à ses pieds, près de ses genoux, en fait. Et Doc a dit, ça suffit là. Puis, il a jeté les gants. Puis, il a vraiment... C'est quoi le terme là, en français, là, quand tu bats quelqu'un très, d'une façon très convaincante? Mais en tout cas, je pense que Andrew Kopp a pas aimé cette expérience-là, pour dire
la même chose.
Et Martin Saint-Louis, alors j'ai demandé à Martin, tu sais, c'est clair que tu veux pas que Dak se bat souvent, mais le fait qu'il a fait ça pour se défendre lui-même, puis pour effectivement pour faire en sorte qu'un certain. Que ça continue pas sans conséquence, les jeux qui a eu lieu à son endroit. Martin pouvait pas cacher le fait, il a dit, tu sais, j'ai adoré ça, puis il y avait un petit sourire malin là, quand il l'a dit, puis il était comme, écoute, c'était pas idéal parce que je me suis rendu à 9 attaquants parce que Christian Dvorak avait pas commencé la deuxième période, mais il a dit, big picture, I loved it. Tu sais, c'est alors dans le fond, tu sais, dans l'évaluation globale et puis dans le développement du joueur, avoir cet aspect-là, c'était bien. En tout cas, tout ça pour dire que si Doc joue avec une blessure au pied, j'espère que le Canadien va voir ce qui se passe avec Monahan en ce moment. Parce que le fait que Monahan a joué avec une blessure au pied, je pense que c'est assez clair à ce moment-là que ça a causé d'autres choses. Ça a compliqué son retour, ça a compliqué la blessure, puis il a déjà manqué beaucoup plus de temps que le Canadien pensait. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête aussi avec Doc.
Oui, absolument, c'est ça, parce qu'une blessure, tu sais, si tu joues sur n'importe quelle partie de ton corps qui est blessée, mais surtout un endroit comme le pied où tu t'appuies, puis etc., il y a de la pression, du poids qui est mis sur cette partie du corps-là. Pour pouvoir l'économiser, il faut que tu compenses ailleurs, puis si tu compenses, souvent, ça peut dérégler d'autres choses, d'autres parties, puis générer d'autres blessures connexes. Donc, tu as tout à fait raison de mentionner que l'exemple de Monahan est tout à fait probant pour Doc de ne pas faire la même chose. Là, dans le cas de Monahan, par exemple, c'est pas la même chose qu'avec Edmundson, parce que là, lui, son contrat se termine. Je pense que le Canadien va devoir se dire, ben là, s'il revient, on n'aura peut-être pas le prix qu'on veut pour lui, mais ce qu'on peut avoir, on va essayer de le chercher. Non? Parce qu'autrement, c'est quoi? Quel est l'avantage de dire, ah ben, finalement, on n'a pas eu le premier choix qu'on voulait, on a pas se contenter d'un troisième choix, aussi bien le garder. Pourquoi? Ouais, tu sais, honnêtement.
La seule chose,
à moins qu'il manque de personnel, tu sais, rendu à ce moment-là de la saison.
Ouais, mais il y a aussi la notion ou l'idée où. Puis tu l'as mentionné dans un texte que tu as fait la semaine passée que le Canadien pourrait entamer des discussions pour une prolongation de contrat avec Monahan, peut-être
ouais.
À court terme, un an, deux ans max, permettra au Canadien de le garder comme un gars qui peut aider les jeunes, donner l'exemple, aider l'équipe à remporter des matchs et ça donnerait à Monahan une chance d'augmenter sa valeur sur le marché des joueurs autonomes. Moi, personnellement, je serais du camp où il ne devrait pas faire ça parce qu'effectivement, je pense que Kirby Doc en ce moment est en train de montrer qu'il n'y a pas vraiment besoin. Ils n'ont pas besoin de ce filet de sécurité pour Doc. Là. C'est parce que avec Suzuki, Doc, Dvorak, et Evans, pour dire qu'ils sont bien au centre, là, mais, ou que c'est parfait, mais ils ont quand même quatre joueurs de centre. Dvorak, à mon avis, s'en va nulle part, peut-être pas, définitivement pas dans le court terme. Moi, j'aimerais aller chercher ce que je peux pour Monahan, puis lui aussi lui donner une chance de jouer en série, puis il peut augmenter sa valeur sur le marché en faisant ça aussi. Là. Alors, c'est comme... Puis, tu sais, notre collègue Pierre Lebrun continue à mentionner que l'Avalanche du Colorado Serait très intéressé à l'ajouter, que ce serait un fit. Ils ont pas remplacé Nazem Kadri après qu'il a quitté comme joueur autonome. Je pense qu'il espérait qu'Alex Newhook pourrait prendre sa place. Ça n'a pas fonctionné. L'Avalanche, en ce moment, ils ont perdu aux Ducks hier soir. Ils vont voir qu'ils se battent pour qualifier pour les séries. Alors, ça se peut que ça soit... Ça se peut qu'ils ne seraient effectivement pas dans le marché pour un gars comme Sean Monahan, mais s'ils peuvent se remettre, si les Canadiens sont capables d'aller chercher... Moi, je dirais un choix de deuxième ronde serait probablement le minimum pour Sean Monahan, mais s'ils sont capables d'aller chercher ça, ça serait souhaitable. J'irais le faire. Sinon, s'il n'y a pas de choix de deuxième ronde sur la table pour lui, là, je commencerai à penser un peu, mais je suis convaincu que si Monahan est capable de revenir dans un bref délai, là, dans la prochaine semaine ou deux, puis démontre qu'il est en santé puis est capable de jouer la façon qu'il jouait au début de la saison, ça me surprendrait que le Canadien ne serait pas capable d'aller chercher un choix de deuxième ronde pour ses services.
Ouais, ben je trouve juste que le temps commence à presser parce que tu dis une semaine, à partir du moment où le gars, tu sais, il patine avec un chandail de non-contact puis cesse de patiner, après ça, j'ai de la difficulté à m'imaginer qu'il reviendrait et il serait prêt à aller sur la et à reprendre la compétition dans une semaine. Fait que mettons que dans le meilleur des cas, c'est deux semaines là.
Il y a besoin de s'entraîner une ou deux fois avec un contact. Je pense pas que deux semaines, ça serait long. Là. Du moment qu'il recommence à s'entraîner avec l'équipe au moment qu'il joue, je sais pas. Je pense que deux semaines, ça serait long, mais il faut qu'il s'entraîne avec l'équipe avec des contacts.
Ouais.
Mais de ce moment-là, ça serait pas nécessairement très long avant qu'il se retrouve dans un match. Là. Ça serait peut-être quatre jours.
Espérons-le. Je suis un petit peu... J'ai tendance à être sceptique par rapport à ça, mais écoute, si tu as raison, tant mieux. Mais écoute, dans le meilleur, mon point, c'est que si le Canadien espère encore obtenir un choix de premier tour pour ses services, ça commence à être pressant qu'il revienne au jeu et qu'il démontre qu'il est capable de faire le travail. Et chaque jour qui passe nous éloigne de ça et réduit cette possibilité-là.
Ben, je pense que, ouais. Puis je pense que juste cette blessure-là, écoute, cette blessure-là n'a aucun rapport avec les autres blessures que Monahan a connues, mais la réalité, c'est que ce gars-là s'est fait opérer à chaque hanche. Il a connu 2-3 ans de douleur insupportable. Puis une fois que ça arrive, et tu te fais connaître comme un gars qui est susceptible de te faire blesser, même si la blessure qu'il a en ce moment n'a aucun rapport avec ses blessures aux hanches, ça crée une réputation. Puis je pense qu'il y a beaucoup de DG qui vont dire « Écoute, le gars se blesse tout le temps, alors je ne vais pas donner le choix. » Je pense que le choix de première ronde, là, c'est... Il aurait fallu que Monahan reste en santé pour même avoir cette possibilité-là. Et honnêtement, avec la qualité du repêchage cette année, le choix de première ronde 2023, c'était déjà... Ça aurait déjà été difficile. Même si Monahan a resté en santé, même si Monahan a continué à produire au rythme qu'il produisait avant... Je pense que ce serait surtout un choix de première ronde en 2024 qu'il pourrait aller chercher, mais moi, ça me surprendrait que... Puis là, avec la blessure, je pense que c'est fini.
C'est la vraie question. Ouais. OK, on prend une petite pause, puis on revient tout de suite.
Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Donc, si Edmundson a des chances de rester avec les Canadiens, d'être encore là l'année prochaine. Si Monahan, en espérant, en prenant pour acquis qu'il va finir par recouvrir la santé puis être disponible, n'apportera pas aux Canadiens le choix de première ronde qu'il espérait avoir au départ. Je t'invite un peu à ce qu'on se tourne vers un, d'un autre candidat possible à se faire échanger. Tu as écrit à son sujet hier soir, Jake Allen. Jake Allen, là, pour l'instant, avec le rendement de Samuel Montembeau, qui, tu sais, les gens s'emballent et sont prêts à consacrer Montembeau comme étant gardien de but numéro un de cette équipe-là. Moi, j'invite à modérer un petit peu les transports à ce niveau-là, mais quand même, il y a des équipes qui ont besoin d'aide devant le filet. Jake Allen est un gardien qui, tu sais, sans être un prétendant au trophée Vézina, est capable, tu sais, de se défendre devant le filet. Il a un contrat extrêmement facile à gérer pour quand même pour un gardien pouvant jouer 40-45 matchs par année. Est-ce que tu le vois comme étant un gars qui, que quand tu disais, oh, bon, ben là, ça n'a pas marché avec mes deux principales options. J'ai pas ce que je veux pour Josh Anderson, puis je suis pas vraiment intéressé à l'échanger. Maintenant, regardons ce qu'on peut avoir pour Jake Allen. Est-ce que c'est une piste que tu considères?
C'est compliqué. C'est vraiment, c'est difficile à voir. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent là-dedans. Premièrement, il faut être pas mal convaincu que Samuel Montembeau peut faire le travail comme gardien numéro un. Deuxièmement, il faut être pas mal convaincu que Caden Primeau mérite l'opportunité et serait capable d'être le numéro 2 pour Samuel Montembeau. Il ne faut pas oublier que l'année prochaine, Caden Primeau il va falloir le passer par le ballottage pour le renvoyer à Laval. Alors, si Jake Allen est là, et Samuel Montembeau va définitivement être là, Kent Hughes l'a dit très clairement à son dernier point de presse, ça veut dire que le Canadien, fort probablement, va falloir, sauf s'il l'échange, il va falloir prendre le risque d'essayer de passer Caden Primeau au ballottage, puis Caden Primeau risque de devenir le Samuel Montembeau d'une autre organisation. Comme le Canadien a donné une opportunité à Montembeau de venir ici à cause du fait que les Panthers fallait qu'ils passent par le ballottage pour l'envoyer à la Ligue américaine, Primeau pourrait devenir ce gars pour quelqu'un d'autre. Alors, mais la raison pour laquelle le Canadien a signé Jake Allen un contrat de 2 ans juste avant la saison, c'est parce que dans leur évaluation, non seulement ils trouvaient qu'il y avait besoin, c'est pas une super vedette devant les buts, mais quelqu'un qui va être capable d'offrir l'opportunité de remporter des matchs pour leur jeune équipe. C'est important pour eux. Ça peut être vraiment décourageant, démoralisant quand un gardien qui te coûte des matchs soir après soir. Et aussi que Jake Allen comprenait la situation, que c'est un bon vétéran. Martin Saint-Louis a appelé l'attitude de Jake Allen. Il a dit que c'est comme l'or hier. Alors, oui. Hier matin, en disant que tu as besoin, puis les gars qu'il a mentionnés, il a dit que tu as besoin des gars comme Allen, comme Joel Edmondson, comme David Savard, comme Brendan Gallagher, pour effectivement, il utilise tout le temps de ce temps-ci une analogie d'un train qui doit continuer à rouler, puis il trouve que des gars comme ça aident le train à rouler. Alors, tout ça complique la chose, mais ceci étant dit, effectivement, si Monahan et Edmondson n'ont pas le valeur que le Canadien espérait qu'ils allaient avoir sur le marché, ça se peut qu'Allen a ce valeur-là, mais il y a très peu d'équipes avec qui tu parlerais. T'sais. Il y a définitivement les Kings de Los Angeles qui, en ce moment, jouent du très bon hockey, mais ils ont les pires résultats de la Ligue en termes de leur gardien, comparé aux les buts contre, comparé aux buts attendus, et le pire ratio de la Ligue. Ils ont un gardien qui pourrait renvoyer pour que ça marche. Jonathan Quick est rendu à sa dernière année de contrat. Il ne performe pas. C'est quelqu'un qui pourrait renvoyer pour... Non seulement pour que l'argent fonctionne, mais ça leur couperait beaucoup d'argent, ça couperait leur masse salariale et ça leur permettrait effectivement de peut-être faire d'autres choses qu'ils seraient intéressés à faire parce que, tu sais, dans l'Ouest, c'est pas mal ouvert, là, tu sais, c'est comme si moi je suis Rob Blake et je suis Kings de Los Angeles, je me dis, bon, ben, tout ce que j'ai besoin, honnêtement, c'est un gardien compétent. J'ai pas besoin d'un gardien qui est comme, qui va voler des matchs, là, parce que j'ai pas besoin de voler des matchs avec mon équipe. J'ai besoin d'avoir un gardien qui va faire les arrêts qu'il doit faire. Et ça, c'est pas mal Jake Allen. Tu sais, c'est, Jake Allen va rarement voler des matchs. Il peut connaître des matchs difficiles, c'est sûr. Mais c'est un gars qui, derrière une bonne équipe, va te donner un rendement correct, honnête. Tu sais, c'est comme, et à ce prix-là, la seule chose, c'est que tu as 2 ans de contrat avec Jake Allen. Un prix qui est quand même assez, assez raisonnable pour un gardien. Mais c'est... Alors, il faut que tu sois prêt à accepter ces 2 ans-là. Mais pour les Kings, qui... Je sais pas. Je trouverais ça une option intéressante si jamais Kent Hughes a dit « OK, Jake Allen est disponible », mais pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, c'est pas aussi simple que ça. Parce que je pense que le Canadien veut absolument avoir une certaine... tu sais, que ça soit solide devant les buts, jusqu'à temps qu'il aille chercher un gardien qui serait une solution plus à long terme.
Moi, ce que je trouve paradoxal, c'est que, d'une part, tout le monde cherche de l'aide devant le filet. On est tellement dans une ligue qui est axée sur l'offensive en ce moment que des gardiens qui vont pouvoir avoir un impact réel sur les matchs, qui vont pouvoir aider leur équipe à gagner, c'est extrêmement prisé à l'heure actuelle. Mais en même temps, de manière générale, quand tu regardes ça, c'est la position où les équipes investissent le moins d'argent. Puis quand il y a des joueurs qui sont sur le marché des transactions, ce sont les gardiens qui génèrent les moins bons retours dans le cadre de transactions. Ils sont dévalués sur le marché, mais dans la vie tous les jours, tout le monde s'accorde pour dire, hey, quand tu as un bon gardien, ça fait une différence, puis c'est quand tu n'en as pas que tu réalises à quel point c'est important. Alors, ouais. Je trouve qu'il y a comme une contradiction, là. Puis effectivement, là, avec tellement d'équipes qui sont coincées sur le plafond, contre le plafond salarial, ça diminue le nombre d'équipes qui pourraient être intéressées à Allen. Évidemment, il n'y a pas une aussi bonne saison que ce qu'on a vu par le passé. Peut-être que ça fait en sorte que ces statistiques étant moindres, ça va limiter l'intérêt. Mais toi, tu mentionnais les Kings de Los Angeles. Moi, je pense qu'une équipe qui m'apparaît comme étant t'es logiquement intéressée à aller chercher un gardien, ce sont les Penguins de Pittsburgh. Parce que l'état de santé de Tristan Jarry est très volatile. Là, pour l'instant encore, il est sur la touche pour moins de 2 semaines. Casey DeSmith, son adjoint, qui est signé pour 1,8 million la saison prochaine, ne connaît pas une très bonne saison. Ils sont rapidement au bout de leurs ressources. Et puis, c'est une équipe qui se bat pour une place en séries éliminatoires puis qui a besoin d'avoir... Ils ont besoin que leur gardien fasse les arrêts. T'sais. Alors, avec l'incertitude autour de Jarry puis de Smith qui fait plus ou moins le travail, est-ce que ça pourrait être une équipe qui pourrait trouver le moyen d'ajouter un gars comme Jake Allen? Peut-être. Mais je pense que le Canadien serait beaucoup plus ouvert à considérer cette possibilité-là si on était plus loin dans le temps et que Montembeault avait fait ses preuves sur une plus longue période encore. Parce que là, je pense que la récente séquence que vient de connaître Montembeault augure très bien pour le futur. Puis je comprends tout le monde d'être emballé. Mais là, la première étape, avant de dire ben, on n'a plus besoin de Jake Allen, c'est que là, l'arrangement, grosso modo, c'était jusqu'à maintenant, Jake Allen garde les buts 65% du temps, environ. Là, si au moins ça devient 50-50, puis qu'on fait un système d'alternance entre les deux, qu'on essaie d'exploiter la compétition saine qu'il y a entre ces deux gars-là. Peut-être pas s'établir sur le principe de dire si tu gagnes ton match, tu vas avoir le départ suivant, parce que c'est pas une équipe qui mise sur la symbolique du résultat comme tel. Tu sais, si jamais tu donnes 5 buts dans une victoire de 7-5, est-ce que ça t'a donné le droit en tant que gardien nécessairement d'aller chercher le filet pour le match suivant? Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de la qualité des performances, que les deux se challengent comme ça, laissant le temps à Allen de redevenir le gardien qu'il est capable d'être, laissant le temps également à Montembeau de réclamer ce filet-là avec un coéquipier qui est en santé et non pas simplement sur la liste des blessés, je pense que ça, le Canadien sortirait gagnant pour que l'année prochaine, à la même date ou même plus tôt en saison, on peut se reposer la même question puis se dire, OK, là, on est rendu au point où le Canadien peut se passer de Jake Allen. Mais il me semble que dans la situation actuelle, tu fais bien de mentionner Kaden Primeau puis le fait qu'il va avoir besoin du balatage la saison prochaine. À l'heure actuelle, il ne faut pas se rappeler, une équipe qui réclame un joueur au balatage est tenue de le garder au sein de sa formation de la Ligue nationale, sans quoi, si elle veut le céder à la Ligue américaine, doit à son tour le céder au balotage. Alors, à l'heure actuelle, je ne vois pas une équipe qui, en début de saison prochaine, réclamerait Kaden Primeau en disant « Voilà, lui, c'est un gars qu'on garde sur notre formation des 23. » Mais je trouve que le Canadien, s'il devait se départir de Allen pour aller chercher des actifs futurs, que ce soit un espoir ou un choix au pêchage, se retrouverait extrêmement vulnérable devant le filet parce qu'à l'heure actuelle, quand c'est Samuel Montembeau, ta seule valeur sûre, c'est que c'est mince anti-pépin. Alors, je sais pas, il me semble que je comprends que les gens s'emballent puis se disent, ben là, aussi bien monnayer le fait que Allen est là, qu'il y a une demande, que son contrat est attrayant. Mais dans la situation du Canadien, je vois difficilement comment ça peut arriver. Je serais surpris que le Canadien passe à l'action dans un dossier comme celui-là.
C'est très similaire qu'avec Edmondson, dans le fond, c'est que non seulement que les Canadiens ne sont pas obligés de changer Jake Allen, je pense que, comme tu as bien exprimé, que le Canadien n'a pas vraiment le goût de le faire. Alors, il va falloir que, tu sais, quand tu mentionnais que le marché des échanges pour les gardiens est toujours un peu déprimé et pour une raison qui est quand même assez bizarre, tu sais, ils ne sont pas. Si des équipes sont, tu sais, viennent pas avec des offres convaincantes, Jake Allen va rester ici, là, parce que honnêtement, ça va prendre une offre que Ken Hughes peut vraiment pas refuser pour que le Canadien bouge là-dessus. Alors, parce que, encore une fois, toutes les raisons pour lesquelles les Canadiens ont décidé de lui donner un contrat de 2 ans sont encore valables aujourd'hui. Ils ont besoin de profondeur devant le filet, comme tu viens de mentionner. Le gars lui-même, c'est quelqu'un que le Canadien aime avoir dans leur entourage. Et puis, il l'a démontré. T'sais, il l'a démontré vendredi, quand il nous a parlé. T'sais, la deuxième question qu'il a reçue était concernant Samuel Montembeau puis son rendement. C'était une question qui lui demandait c'est quoi les améliorations techniques que tu as vues dans Sam Montembeau depuis l'année passée. Et moi, je connais plein de gardiens qui n'auraient pas aimé ça. Qui n'auraient pas aimé que, après une absence de 3 semaines, la deuxième question que je reçois, c'est concernant mon adjoint. C'est comme ça, concernant mon adjoint qui a performé à un niveau, il y avait quand même un pourcentage d'arrêt de 930 pendant son absence, de Jake Allen, pendant 10 matchs.
Spectaculaire.
Contre des équipes, contre quelques-uns des meilleures équipes de la Ligue, quand même. Mais Jake Allen n'est pas ce gars-là. Il n'est pas ce gardien-là. C'est un gars qui ne voyait pas. Puis, écoute, d'entendre un gardien numéro 1, et Martin Saint-Louis l'a clairement dit plus tôt en saison, quand Jake Allen avait de la misère pendant le mois de novembre, que Jake Allen, c'est notre numéro 1, puis that's it. Pour entendre un gardien numéro 1 dire que Sam is on a heater, c'est le gars, il est hot. Et si le gars est hot, il devrait jouer parce que ça va aider notre groupe. C'est très rare que tu vas entendre un gardien parler comme ça de son adjoint. Particulièrement en revenant d'une blessure, particulièrement quand ta place devant le filet est en question. Tu sais, Jake Allen, il sait exactement ce qui se passe. Il comprend. Quand il a signé le contrat, il a parlé du fait que Moi, je veux aider cette organisation à se rendre à une place où ils pourraient peut-être éventuellement avoir du succès et je ne serais pas, fort probablement pas là quand ça arrive Et je comprends ça, puis je vais aider cette organisation-là à se rendre là. Puis tu sais, Martin Saint-Louis, à l'époque, avait fait le parallèle entre quelqu'un qui plante une arbre, mais en sachant qu'il ne va pas avoir l'opportunité de s'asseoir dans l'ombre de l'arbre qu'il a planté. C'est ça la valeur de Jake Allen, en plus de ce qu'il peut faire devant le filet. Là. C'est un gars que, je pense, et Ken Hughes en a parlé beaucoup la semaine passée, de à quel point lui et Jeff Gorton considèrent, et Martin Saint-Louis aussi, considèrent bâtir une culture gagnante et une culture saine au sein de l'équipe est importante, et Jake Allen, il amène ça. Alors, pour ça, c'est... Mais, tout ça étant dit, c'est que tout le monde a un prix, là. C'est sûr que si quelqu'un vient, appelle Ken Hughes, puis dit « Écoute, on a vraiment besoin d'un gardien, on a une chance de gagner cette année. Qu'est-ce que ça va prendre pour aller chercher un Jake Allen? » Mais moi, si je suis Ken Hughes, la réponse, c'est le choix de première ronde 2023. That's it. Ça, c'est pas... En bas de ça, je bouge pas. Alors, si tu reçois le prix, peut-être tu le considères. Même à ça, tu sais, je pense que tous les points que tu as faits sont très valables, sont très importants. Mais Ken Hughes a été clair. Il aimerait ça aller chercher un autre choix de première ronde en 2023. Je ne suis pas sûr s'il y a une équipe qui le paierait nécessairement. Mais ça serait mon prix. Tu sais, moi, je ne prendrais pas moins que ça. Et,
écoute.
Ouais. Sauf s'il y avait un espoir qui était un choix de première ronde. C'est l'équivalent d'un choix de première ronde. Tu sais, si tu reçois un espoir que tu aimes, qui est un choix de première ronde, peut-être je le considérerais aussi. Là. Puis...
L'attrait de Allen, c'est le fait qu'il soit sous contrat encore pour deux autres années après. Ça fait en sorte que ça assure à l'équipe qu'il l'a quand même de l'expérience et de la stabilité devant le filet. Mais s'il y a des équipes qui cherchent à s'améliorer à court terme, ben, tu as quand même une gamme de gardiens qui vont être joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison. Évidemment, tu parlais de Jonathan Quick, c'est le mieux payé du lot à 5,8 millions. Mais il y a Semyon Varlamov également. J'ose croire que les Islanders, quand ils vont réaliser qu'ils sont sortis du portrait des séries, vont considérer d'échanger Varlamov. Cam Talbot, peut-être, s'il ne signe pas à Ottawa, pourrait être un candidat à se faire échanger. Je te parlais de Tristan Jarry. Lui, évidemment, Pittsburgh est dans le coup, mais il faut quand même se souvenir du fait qu'il est à la dernière année de son contrat. James Reimer à San Jose, lui, ça pourrait être certainement un gars qui risque de susciter un certain intérêt. Et puis également Jonas Korpisalo de Columbus. Donc ça, ça m'apparaît comme étant les gars qui pourraient changer d'adresse là, à la date limite des transactions. Si jamais il y a une équipe qui a besoin d'aide devant le filet. Mais est-ce que, à part Cam Talbot, y a-tu des gars là-dedans qui sont véritablement des alternatives supérieures à Allen? J'en doute. Peut-être Varlamov, mais à 5 millions par année au lieu de ce que gagne Allen cette année, qui est la moitié de ça. Je sais pas, il semble que c'est un passé de bien.
Ouais, c'est ça. C'est écoute. Moi, si tu me demandes si je pense que ça va arriver, je pense que c'est non. Je pense pas que Jake Allen s'en va nulle part, mais et je pense pas aussi que le Canadien devrait complètement changer la façon qu'il pense juste à cause du fait que peut-être qu'ils seront pas capables d'aller chercher ce qu'ils espéraient chercher avant la date limite. Tu sais, écoute, Dadonov, j'en ai parlé à un couple de personnes au Centre Bell, un couple de dépisteurs, puis j'avais un qui m'a mentionné que, tu sais, Dadonov, c'est quelqu'un peut-être à 2h50, tu sais, peut-être juste avant l'heure limite des transactions. Il y a une équipe qui veut de la profondeur, qui veut un gars qui peut aider à combler un trou si jamais quelqu'un se blesse en série, que tu peux jouer dans ton top 6, puis il serait capable de jouer avec des gars comme ça. Juste une police d'assurance, là, sans payer trop cher, oui, peut-être quelqu'un irait le chercher parce qu'il est quand même historique. Il a marqué beaucoup de buts et d'une façon très constante. Mais tu sais, tu vas peut-être aller chercher un choix de quatrième ronde pour ça. Là, puis le Canadien en a déjà trois.
Cool. Max, écoute, là,
Je sabre le champagne si c'est le cas. Là.
Ouais, mais c'est ça. C'est alors, tu sais, mais c'est pas un désastre non plus si le Canadien n'est pas capable de monnayer certains de ces joueurs-là.
Non.
C'est, les circonstances sont ce qu'ils sont, là. Puis, il faut pas comme trop réagir pour essayer de sauver ce date limite-là. C'est pas en big picture. Tu sais, le Canadien a quand même deux choix de première ronde. C'est parmi. Je me rappelle, je pense qu'il y a une autre équipe qui a deux choix cette année, si je ne me trompe pas. Puis, alors, tu sais, ils peuvent juste continuer dans leur processus aussi. Tu sais, échanger Jake Allen juste parce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher ce qu'ils voulaient pour Sean Monahan et ou Joel Edmondson et Jonathan Drouin et Evgeny Dadonov, c'est pas la bonne raison de le faire. Tu sais. Mais si tu es capable de d'aller obtenir un prix qui a de l'allure, qui fait du sens, là, il faut y penser. Là. Mais il faut faire ça pour les bonnes raisons.
Écoute, on a deux questions de nos auditeurs, puis il y en a une justement qui est un petit peu dans cette veine-là, une question qui nous est parvenue par écrit. Stéphane Vermette qui nous demandait, puis je vais un peu paraphraser, là, mais il se demande si le Canadien ne pourrait pas aller chercher, étant donné qu'il y a des équipes prétendantes à la Coupe Stanley qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre sous le plafond salarial, et compte tenu du fait que le plafond salarial n'augmentera pas beaucoup l'année prochaine, que le Canadien pourrait être en position d'aller chercher mauvais contrat au sein d'une de ces équipes-là, qui pourrait donc gagner de la marge de manœuvre pour s'améliorer ailleurs, et aller chercher le fameux premier choix qu'il veut tant avoir. Donc, en libérant cette équipe-là donc d'une roche dans son soulier, finalement, ou d'une roche dans son patin, pour faire une analogie de hockey. Surtout que, comme nous le mentionne Stéphane Vermette, ben, il dit là, avec la fin des contrats de joueurs comme Drouin, Monahan et Dadonov, ben, le Canadien devrait avoir assez d'espace pour absorber un montant comme celui-là l'année prochaine. Parce que c'est ça, c'est que le mauvais contrat, ce ne sera pas un mauvais contrat qui dure, qui se termine cette année, mais qui concourrait encore pour une autre saison. Là, il nous donne deux noms qui, je vous le dis tout de suite, M. Vermette, qui ne fonctionnent pas. Le premier, c'est Jake Muzzin. Jake Muzzin avec les Maple Leafs de Toronto. Jake Muzzin, sa carrière est peut-être terminée. Il est sur la liste des blessés à long terme. Donc, le fait de le placer sur la liste des blessés à long terme, ça ne pose pas problème aux Leafs qu'il soit dans cette situation-là, il n'est pas encombrant parce que finalement, il sort des calculs jusqu'à un certain point. Et l'autre nom que vous mentionniez, Alec Martinez des Golden Knights de Vegas, c'est vrai que c'est un défenseur défensif qui fait beaucoup d'argent, mais c'est un as pour bloquer des lancers et il est utile à la brigade défensive des Golden Knights. Alors, je ne les vois pas, un, échanger Martinez et deux, devoir payer pour pouvoir s'en débarrasser. S'ils décidaient de l'échanger, ce serait pour s'améliorer ailleurs, mais ce serait certainement pas pour larguer un contrat comme celui-là. Cela étant dit, est-ce que la théorie de la chose, est-ce que tu penses que le Canadien pourrait se retrouver dans une situation et dire, OK, on regarde, on va chercher un mauvais contrat qui est disponible à gauche, à droite, qu'on va être prêt à endurer pendant une autre année, puis là, on va aller chercher peut-être pas un premier choix, mais peut-être un deuxième. Ou du moins un actif qui ferait en sorte qu'on exploiterait au maximum la marge de manœuvre salariale qu'on a à notre disposition.
Ben oui, je pense que ça serait souhaitable. Mais tu sais, je pense aussi qu'il va falloir que quelque chose bouge chez le Canadien. Tu sais, qu'il faut quand même créer un peu d'espace. Il y en a un peu. Mais c'est ça, c'est je vois pas pourquoi il ferait pas ça, mais à mon avis, ce serait vraiment pour, il va falloir que ce contrat-là termine cette année. Je pense pas qu'ils vont prendre un contrat qui dure jusqu'à l'année prochaine. C'est vraiment quelque chose qui doit terminer à la fin de la saison. Je pense que ça, c'est une chose que le management en ce moment est très conscient qu'ils ne veulent pas ajouter de l'argent au-delà de la saison courant. Tu sais, c'est les Red Wings de Détroit. Il y a une couple d'années, on procédait comme ça pour faciliter l'échange de David Savard des Blue Jackets au Lightning de Tampa Bay. Tu sais, ça se fait. C'est quelque chose que ça, c'est une chose. Ça, c'est honnêtement de louer ton espace sous la masse salariale, mais de prendre un contrat, ce serait un peu le même effet, mais c'est une façon d'aller chercher un actif. Je vois pas pourquoi le Canadien le ferait pas si on l'espace de le faire. Alors oui, c'est juste, ça dépend vraiment, c'est limité vraiment à juste des joueurs de location. Là. C'est vraiment limité à quelqu'un à qui le contrat vient à échéance. Alors, je ne sais pas à quel point c'est probable que ça va arriver, à mon avis.
Ouais. Parce qu'écoute, là, c'est pas. Je ne vois pas le Canadien, même si on regardait les gars qui sont sous contrat pour une saison de plus, je ne vois pas le Canadien s'encombrer d'un gars comme Nikita Zaitsev, par exemple. T'sais, ça serait un petit peu essayer de faire un pas en arrière. Mais selon ces paramètres-là, moi, il y a un gars qui m'apparaît comme étant peut-être un peu raisonnable, c'est Warren Fogle avec les Oilers d'Edmonton, qui lui, tu sais, les Oilers essaient de s'améliorer, ils veulent trouver des façons d'être créatifs puis de pouvoir s'améliorer la date limite des transactions. Et lui, tu sais, il avait été obtenu dans la transaction de Ethan Bear avec les Hurricanes de la Caroline. Et puis, bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas tellement bien fonctionné pour lui avec les Oilers. Il est un petit peu sur la voie d'évitement. Et puis, c'est pas. Et c'est un gars qui, si je ne m'abuse, là, fait entre 2 et 3 millions par année. Il fait 2,75 millions.
Ouais, ouais. C'est ça. Mais fait l'année prochaine aussi. Là.
L'année prochaine aussi. T'sais. Fait que c'est un gars qui peut jouer sur ton troisième, quatrième trio. C'est assez cher à payer, mais c'est quand même un gros bonhomme. Est-ce que les Oilers seraient prêts à donner un actif intéressant pour dire, bon, ben là, débarrassez-nous de Warren Fogle? Peut-être. Mais sinon, c'est très, très limité. Alors, le nombre de candidats qui répondent à cette description-là précise que vous nous avez envoyée. Écoute, il y a Sean Walker, défenseur droitier des Kings. Ils ont un surplus de droitiers, eux autres, à Los Angeles. Ils ont un manque à gauche. Alors, peut-être qu'ils vont vouloir résoudre ce déséquilibre-là. Sean Walker, une autre année à 2,65 millions. Puis depuis ses blessures, avant, c'était un gars top 4. Puis je pense que là, au point où il en est rendu suite à ses nombreuses blessures, il a plus l'air d'un sixième, septième défenseur. Donc, à ce moment-là, il est assez cher à payer. Mais écoute, au-delà de ces deux noms-là, je vois pas personne d'autre. On a également une question audio qui nous a été parvenue. Alors, j'en profite. Une fois de plus, pour rappeler à tout le monde que vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale. On est toujours heureux d'avoir vos messages. Alors, gênez-vous pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est à nous appeler au 646-847-9404, 646-847-9404. Alors, sans plus tarder, écoutons cet auditeur, c'est Loïc.
Oui, bonjour Marc-Antoine et Harpon, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Loïc Ledan. Je vous appelle parce que je regardais les résultats du Canadien et du Rocket de Laval. Et donc, malgré les absences, malgré les blessés, les résultats ne sont pas aussi mauvais qu'attendus. Et la question que je me posais par rapport à cela, c'est que si le Canadien arrive à s'en sortir avec des joueurs qui viennent du Rocket, le Rocket arrive à s'en sortir avec des joueurs qui reviennent de blessures et des joueurs qui viennent des Lions de Trois-Rivières. Je me demandais comment ça se passait pour les Lions de Trois-Rivières. C'est une franchise qui est assez récente, mais j'ai vu que le coach a démissionné l'été dernier ou en début de saison pour aller dans un autre club et que maintenant le coach c'est également le GM. Je vois que la franchise, elle est dans les derniers au classement et j'ai vu ces derniers temps beaucoup de ruptures de contrat avec des joueurs. Donc, je me posais la question si cette franchise allait bien, s'il y avait des bonnes affluences et s'ils arrivaient quand même à gérer cette situation parce que j'imagine que ça doit être très difficile avec tous les joueurs qui remontent vers Laval. Donc, merci beaucoup et puis encore un gros bravo pour votre travail. Au revoir.
Alors, merci pour ta question, Loïc, et merci de tes... je sais que tu es un fidèle abonné de The Athletic, alors merci beaucoup. Quand le Canadien éternue, le Rocket se mouche. Et quand le Rocket se mouche, les Lions de Trois-Rivières s'en vont à la pharmacie pour réaliser qu'il n'y a plus de médicaments contre le rhume sur les étalages. À l'heure actuelle, les Lions sont complètement décimés. Vous êtes à mesure de voir que la quantité de gars qui ont été rappelés par le Canadien du Rocket, Ullonen, Belzile, Harvey Pinard, Pitlick, il y a une tonne de blessés avec le Rocket également. Je crois qu'ils sont 8 joueurs à l'heure actuelle qui manquent à l'appel, entre autres Otto Leskinen, Yann Michak, Danick Martel. Ils sont 8, là. Alors, Baudin également, absolument. Ouais. Gabriel Bourque tout récemment. Kevin Poulin s'est rajouté à la liste. Ça n'arrête pas. Alors là, vous trouvez qu'il y a beaucoup de blessés à Montréal. Ben, non seulement y a-t-il fallu les remplacer avec certains gars du Rocket, mais l'infirmerie est pleine à la Place Belle également. Donc ça, évidemment, ça fait en sorte qu'il y a un effet domino sur les Lions. Les autres sont dans une situation quand même assez étrange parce que tu évoquais, Loïc, le fait qu'il y a des contrats qui ont été terminés. C'est vrai, en tout début de saison, okay, le Canadien avait, ben, en fait, les Lions et le Rocket avaient fait signer un contrat à deux volets à Émile Poirier, un ancien premier choix des Flames de Calgary. Puis Émile Poirier était censé être comme un attaquant de premier trio pour eux autres. Sauf que dès le mois d'octobre, je pense pas, il n'a pas joué un seul match avec les Lions, qu'il a plié bagages puis il est parti jouer en Allemagne. Donc, je connais pas trop les circonstances. Je ne sais pas si c'est lui qui a décidé de partir, si ça a été d'un commun accord, s'il a été libéré ou quoi que ce soit. Mais le fait est qu'il n'a jamais joué pour les Lions puis qu'il est parti jouer en Allemagne. Il y avait un autre gars qui s'appelait Beauregard qui devait également jouer sur leur premier trio. Lui, il est à Laval présentement. Dans la dernière semaine, il y a deux gars également qui ont plié bagages. Il y en a un qui a dit « Ciao, bye, je m'en vais ». L'autre a pris sa retraite à cause d'urgence familiale. Je crois que son épouse est malade, quelque chose comme ça. Et ça, c'est sans compter l'entraîneur-chef Éric Bélanger qui, lui, après avoir délai avec 86 joueurs différents, c'est le nombre que j'ai lu, 86 joueurs différents l'année passée, était complètement étourdi par ça, étourdi par les voyages qui n'avaient pas de bon sens. Il a décidé donc de quitter les Lions et il a pris la barre des Voltigeurs de Drummondville. Donc, le directeur général Marc-André Bergeron, qui est donc assure l'intérim derrière le banc depuis ce temps-là. Ça fait une situation qui est extrêmement difficile pour les Lions. C'est sûr que c'est le dernier, c'est le terminus là, au plan professionnel, quand c'est le dernier domino qui tombe et ce sont nécessairement les plus affectés. Les Lions n'ont pas gagné à leurs 8 derniers matchs, ils en ont gagné un seul de leurs 10 derniers. C'est sûr que c'est difficile pour eux autres. L'année passée, ils étaient à 2900 spectateurs environ en moyenne. Puis là, j'ai regardé les chiffres du mois de janvier. C'est légèrement, la moyenne est légèrement en dessous de ça, mais ils ont eu des matchs en dessous de 2000. Mais clairement, les amateurs vont être plus difficiles à attirer au Colisée de Trois-Rivières dans un contexte où l'équipe a de la difficulté à retrouver le sentier de la victoire. Puis, c'est tellement fragmenté que c'est difficile de bâtir une identité avec des gars qui partent dans tous les sens. Il y en a qui ont été donnés à d'autres équipes. Alex Green, le défenseur. Il y a eu Brendan Saunier qui est parti dans une autre organisation aussi. Bref, c'est un casse-tête monumental pour Marc-André Bergeron. Et je me souviens, l'année dernière, on l'avait invité au podcast, au Super Athlétique, à peu près à cette période-ci de l'année. Parce que là, rappelez-vous, l'année passée, le Canadien avait eu un voyage dans l'Ouest, absolument un voyage des fêtes en Floride, où il était complètement décimé par les blessures. On vivait la même situation à Laval. Alors, on avait invité Marc-André Bergeron à venir nous jaser la première saison des Lions et de comment il vivait justement le fait que cet effet domino-là, quel effet ça avait sur lui. Et puis, ben, il le vit encore une fois. Je me pose la question à savoir dans quelle mesure ça fragilise l'existence même d'une nouvelle organisation après tes deux premières saisons, tu es toujours affecté autant par les blessures, puis t'es un peu capable de créer une certaine constance au sein de ton organisation. Peut-être que c'est le lot de toutes les équipes de la ECHL, peut-être, mais j'aurais aimé que que les Lions arrivent dans un contexte où ils auraient pu construire quelque chose d'un peu plus gagnant. Mais il y a eu tellement de blessés à Montréal, puis tellement de blessés à Laval dans les deux dernières années, qui ont juste carrément pas eu la chance de faire ça, puis d'aller chercher la constance qu'ils auraient espérée, puis c'est dommage.
Pas grand-chose à ajouter à ça, là, honnêtement. T'as bien expliqué ça, alors merci pour la question, Loïc. Puis on va terminer là-dessus, effectivement. Alors, on va se reparler lundi avec The Athletic Support. Ben, c'est ça. S'il y a deux matchs contre les Sénateurs d'Ottawa qui s'en vient, on verra si le Canadien est capable d'avoir 20 gars en santé pour jouer ce match-là, parce que la tendance est pas bonne à ce niveau-là. Puis effectivement, les Lions sont en train de le sentir aussi.
Ouais. Donc là, les deux derniers matchs contre les Sénateurs d'Ottawa vont précèdent la semaine de congé du Canadien. Après le match de mardi prochain contre les Sénateurs, le Canadien va passer 9 jours sans disputer de rencontre, donc ça va être un repos bienvenu. Espérons que ça puisse donner le temps à certains blessés de retrouver la forme. Arpin, merci beaucoup. Comme toujours, toujours apprécié. Puis, ben écoute, c'est ça. Comme tu dis, on se retrouve lundi, puis bon week-end tout le monde. Bye bye.